les archives d'Afrique, Alain Focat.
Bonjour à tous et bienvenue dans un magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
J'ai parlé parfois d'un mot qui fait sourire, surtout puisque vous parliez tout à l'heure de désert, la Suisse africaine. Mon plus vif désir, mon plus ardent désir et celui de mes compatriotes et de mes amis politiques, c'est de faire de la Mauritanie la Suisse africaine qui servira non seulement de trait d'union entre les deux parties de l'Afrique, mais dans un avenir prochain, de trait d'union entre l'Afrique et l'Europe.
Comme les présidents Léopold Sédar Senghor du Sénégal, Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire et Amadou Ahidjo du Cameroun, Mokhtar Houldada appartient à la première génération des leaders politiques issus de la décolonisation en Afrique. Comme eux, il va jouer un rôle déterminant dans la naissance de la République de Mauritanie qu'il dirigera pendant plus de 17 ans. Il est d'ailleurs considéré comme le père de la nation mauritanienne moderne. Mars 1995, toute la presse mauritanienne est aux abois. À la une, un seul titre, l'affaire Houldada. L'ancien président, après près de 17 ans de mutisme, a rompu le silence en accordant une sévère interview sur la situation de son pays à Maroc Hebdo. Dans cet entretien, l'ancien chef de l'État déplore la situation de déliquescence morale et culturelle qui règne en Mauritanie. Mais Mokhtar Houldada précise aussitôt, au cours du même entretien, qu'il n'a aucune intention de retourner au pays. Cela ne suffit pas pour apaiser le climat. Pour le régime en place, ce n'est ni plus ni moins qu'une déclaration de guerre. Pour les autorités de Nouakchott, cette interview est la manifestation concrète du désir de l'ancien homme fort de retourner aux affaires. Le peuple mauritanien lui semble plutôt indifférent à toute cette agitation. Il faut dire que pour beaucoup de jeunes, le nom de Mokhtar Houldada n'évoque pas grand-chose. Parti du pouvoir il y a presque 20 ans, nombreux sont ceux qui ne connaissent pas son histoire. Et pourtant...
En vertu de l'accord signé le 19 octobre 1960 entre la République française et la République islamique de Mauritanie, je proclame solennellement l'indépendance de la République islamique de Mauritanie.
Ce 28 novembre 1960, l'homme qui proclame ainsi l'indépendance de son pays avec autant d'émotion dans la voix s'appelle Mokhtar Houldada. Né le 25 décembre 1924 dans un campement à Boutilimite, dans le sud-ouest de la Mauritanie, le jeune Mokhtar, qui est issu d'une famille maraboutique, est formé dès sa tendre enfance dans le moule de la Madra, où il apprend le Coran. Grâce au statut social de sa famille, il va rentrer dans la madrasa des Boutilimite, l'école des fils de chef.
Cette école est la première à former l'élite mauritanienne. Mokhtar Houldada a fait ses études primaires dans cette école. Son nom figure dans ce registre, au numéro 131.
Après 5 années passées dans cette école, où il a suivi des études coraniques, ses parents décident de l'envoyer à l'école française des fils de chef de Saint-Louis, au Sénégal. La Mauritanie ne comportant pas encore de cycle d'enseignement secondaire. Après avoir été interprète dans l'administration coloniale, il passe son baccalauréat à Nice dans le sud de la France et va poursuivre ses études de droit à Paris. Il s'inscrit aussi à l'école des langues orientales. Imprégné de la culture occidentale, il va d'ailleurs épouser une Française, ce que ses adversaires politiques vont lui reprocher tout le temps. Myriam, son épouse.
J'ai rencontré Mokhtar Ouldada à l'Université de Paris, la faculté de droit, où nous étions ensemble en troisième année, et où j'étais chargée par un groupe auquel j'appartenais de contacter les étudiants d'outre-mer pour une conférence qui était donnée par Professeur Massignon. Et chose curieuse, cette conférence était consacrée à l'islam. C'était la première fois que, non pas que j'entendais parler de cette religion, mais que j'allais en savoir un peu plus sur elle.
J'ai quitté le 14e arrondissement et pendant à peine une semaine, ça j'ai presque minuté, à peine une semaine, j'ai eu cette impression, enfin, c'est désagréable d'être parachutée dans le vide. Mais au bout d'une semaine, cette impression s'est dissipée.
Vous êtes adapté facilement, oui.
Il y a une sorte de contact enfin qui a été établi et ça a été, depuis, c'est parfait.
Vous avez découvert ce pays maintenant ?
Découvert, c'est beaucoup dire. J'ai fait un voyage dans le Nord, mais je ne le connais pas encore très bien. J'ai découvert, c'est peut-être son aspect mystérieux. Enfin, le soir, notamment, si nous sommes promenés.
Mais on ne voit que le ciel ici.
Oui, on ne voit que le ciel et le sable.
Qu'est-ce qui vous manque le plus ?
Rien. Absolument rien.
Licence en droit dans la poche, Mokhtar Ouldada retourne en Afrique comme avocat stagiaire à Dakar. Pour son premier poste, il est affecté à Fort Gourou. Il participe au congrès constitutif de l'Union progressiste mauritanienne, l'UPM. Il entre alors en politique lorsque la loi cadre de Gaston Defer en 1956 proclame l'autonomie au territoire de l'ex-empire colonial français. De retour au pays, Mokhtar Ouldada est d'abord élu au conseil territorial de l'ADRAR. Mohamed Ali Sharif, son ancien directeur de cabinet.
Il était élu conseiller territorial de l'ADRAR à l'occasion des premières élections de l'Assemblée territoriale après la proclamation de la loi cadre de fer. Et donc, Mokhtar est intervenu à partir de ce moment-là pour essayer par tous les moyens de garder une Mauritanie indépendante.
Il faut préciser qu'à cette date, la Mauritanie en tant qu'entité n'existe pas encore. Mokhtar Ouldada va ensuite devenir le vice-président du Conseil de gouvernement, le plus jeune vice-président du gouvernement du monde. Il a 32 ans. En juin 1957, le premier Conseil de gouvernement se prononce pour le transfert du chef-lieu de Saint-Louis à Nouakchott. Le décret sera signé par la France le 27 juillet 1957.
Voilà la Mauritanie demain, un pays moderne, c'est-à-dire un pays agricole, pastoral, et surtout minier. 5/6 de la population sont nomades. Les mines, alors, c'est la condition sine qua non de l'existence de la Mauritanie nouvelle. Si nos mines de fer de Fort Gourou ne démarrent pas, la Mauritanie, et je vous l'ai dit très sincèrement et avec une grande amertume, ne se fera pas.
Il faut dire que cette ressource minière est l'espoir de la Mauritanie. Une masse de 120 millions de tonnes de minerais. Mokhtar Ouldada, le jeune élu du conseil territorial de l'ADRAR, ne va cesser de mettre en garde les autorités françaises contre les conséquences du drame algérien sur leur rapport avec les États subsahariens.
J'ai dit qu'à mon sens, il faut à tout prix mettre fin à la guerre, mais mettre fin à la guerre par une négociation entre les deux parties qui se font la guerre.
Cette attitude agace le général de Gaulle qui témoigne une grande estime à cet interlocuteur obstiné jusqu'à l'entêtement. Dans l'opposition avec le Maroc qui réclame la Mauritanie comme faisant partie intégrante de son royaume, la France n'hésite pas à prendre très clairement position. La Mauritanie est un territoire à part entière. Pierre Messmer, ministre de la France d'Outre-mer.
Je suis venu à l'AEF pour rendre visite à la capitale de la Fédération, à Dakar, mais aussi pour me rendre à Attar, en Mauritanie. J'ai décidé de faire ce voyage en plein accord avec tous les élus et tous les chefs mauritaniens. En effet, Il y a quelque temps, certains leaders de partis politiques marocains ont fait des déclarations qui mettaient en cause l'indépendance de la Mauritanie. L'indépendance du Maroc est une chose, l'indépendance de la Mauritanie en est une autre. Le gouvernement français ne peut en aucun cas accepter qu'un pays quel qu'il soit ait des prétentions sur la Mauritanie. Il ne peut être question pour qui que ce soit d'annexer la Mauritanie. Je dois d'ailleurs dire que le gouvernement marocain n'a à aucun moment, à ma connaissance, repris à son compte les déclarations qui ont été faites par le leader politique et qui a parlé de la Mauritanie. J'ajoute que la France est absolument décidée à défendre la Mauritanie contre quelque attaque que ce soit, d'où qu'elle vienne. D'ailleurs, elle le ferait en plein accord avec les Mauritaniens. La manifestation de sympathie à l'égard du gouvernement français et de la France que j'ai reçue depuis mon arrivée à Dakar, et je le sais, qui sont très sincères, sont telles qu'il ne fait pas de doute que les Mauritaniens désirent rester libres et qu'ils ne veulent en aucun cas subir le joug d'une puissance, même d'une puissance voisine, même d'une puissance amie, serait-ce le Maroc. La France a d'ailleurs beaucoup fait en Mauritanie, non seulement sur le plan administratif, non seulement sur le plan politique où de grandes libertés ont été données aux Mauritaniens, mais également sur le plan économique. Il ne faut pas oublier que lors du premier plan du FIDES, près de 500 millions ont été dépensés en Mauritanie et qu'à l'occasion du deuxième plan, plus d'un milliard et demi a été dépensé. Il ne faut pas oublier non plus que tout récemment, le gouvernement de la France vient de décider de consacrer des sommes extrêmement importantes, puisqu'il s'agit de plusieurs milliards, pour la mise en valeur de certains gisements de minerais en Mauritanie, l'irrigation de certaines zones et pour le développement social et économique de la Mauritanie. Tout ce passé unit les Mauritaniens, ces hommes si fiers et si courageux, et les Français de la métropole, ni les uns ni les autres, ne permettront que la paix qui règne en Mauritanie soit troublée par qui que ce soit.
En 1958, Mokhtar Ouldadeh est élu secrétaire général du parti du regroupement mauritanien, PRM. En ce mois d'août 1958, les territoires francophones d'Afrique sont en mouvement. Trois mois après être revenu aux affaires, le général de Gaulle réalise une tournée africaine afin de convaincre les populations d'adhérer à son projet de nouvelle constitution. Tournée de 20 000 km en 9 jours. Tchad, Congo, Brazzaville, Côte d'Ivoire, Guinée, Madagascar, Sénégal et Algérie. Au quatrième jour à Brazzaville, le général de Gaulle propose à tous les citoyens d'Afrique de former une communauté destinée à remplacer l'Union française et dans laquelle chacun des États membres aura la possibilité d'accéder à l'autonomie.
En vérité, jamais la France ne fut plus fière de l'œuvre africaine qu'elle a accomplie. Non, cette œuvre, elle ne la renie pas. Et elle est prête aujourd'hui à la poursuivre, quoique, certainement, dans des conditions tout à fait nouvelles qui sont imposées par l'évolution des peuples et par le mouvement général du monde. Quelles conditions? En voici deux. La première de ces conditions, c'est qu'il est naturel et légitime que les peuples africains accèdent à ce degré politique où ils auront la responsabilité entière de leurs affaires intérieures, où il leur appartiendra d'en décider eux-mêmes. Bref, de se gouverner eux-mêmes. Et le deuxième principe, c'est cette règle Il s'impose à tous les esprits de bon sens que dans le monde comme il est nécessaire que s'établissent de grands ensembles économiques, politiques, culturels et aux besoins des grands ensembles de défense. C'est le deuxième principe que le gouvernement de la République, sous ma direction, met à la base des propositions qu'il va faire dans peu de temps au suffrage de tous les citoyens des territoires d'Afrique et des citoyens de la métropole.
Le général de Gaulle prévient que chaque territoire pourra prendre son indépendance en votant non au référendum du 28 septembre 1958 sur la Constitution. L'indépendance, quiconque la voudra, pourra la prendre aussitôt. La métropole ne s'y opposera pas. Fin de citation. Le choix est donc entre la communauté avec la France et l'indépendance dans la sécession. De fait, le 28 septembre 1958, les électeurs des métropoles et des territoires d'outre-mer se prononcent massivement en faveur de la nouvelle constitution. Seule la Guinée de Sékou Touré se prononce contre, optant pour son indépendance le 2 octobre 1958. La communauté est née et à l'automne, les anciens territoires de l'Afrique occidentale française, AOF, et de l'Afrique équatoriale française, AEF, accèdent au statut de république membre de la communauté. Mokhtar Oul Dada, qui lui aussi a participé à cette campagne référendaire et qui s'est battu pour le oui, propose, le 28 novembre 1958, la proclamation de la République islamique de Mauritanie. Le 6 juin 1959, Mokhtar Oul Dada devient Premier ministre après que des élections législatives l'aient confirmé dans son mandat de député. Il succède alors à lui-même, l'Assemblée l'ayant chargé de constituer le nouveau gouvernement. Seulement, le jeune territoire reste très convoité par le Maroc. Mais la France ne recule devant aucun effort pour faire comprendre au Maroc l'intérêt qu'elle accorde à la Mauritanie. Le général de Gaulle va d'ailleurs effectuer en personne, dès 1959, un voyage à Nouakchott pour bien marquer l'autonomie de la Mauritanie par rapport au royaume de Mohamed V. Mais cela suffira-t-il à calmer l'appétit du royaume chérifien? Mokhtar Oul Dada résistera-t-il à l'expansionnisme marocain qui menace directement l'existence même de son pays? Surtout qu'il n'a même pas encore de capitale. Il est encore installé à Saint-Louis au Sénégal. Comment va-t-il parvenir à franchir cet obstacle de taille, surtout que plusieurs personnalités mauritaniennes étaient déjà venues prêter allégeance au roi Mohamed V à Rabat? On en parle dans une dizaine de minutes dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale Mokhtar Oul Dada. Rendez-vous juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Mon plus vif désir, mon plus ardent désir et celui de mes compatriotes et de mes amis politiques, c'est de faire de la Mauritanie la Suisse africaine qui servira non seulement de trait d'union entre les deux parties de l'Afrique,
mais dans un avenir prochain, de Trévignon entre l'Afrique et l'Europe.
Choisi par la métropole pour prendre le destin de son pays, malgré l'expansionnisme marocain qui menace son existence, en cette fin de la décennie 50, Mokhtar Ouldada, le jeune avocat, désormais premier ministre de la jeune République, aspire désormais, comme beaucoup de territoires faisant partie de la communauté française, à l'indépendance. Au-delà du fait que pour l'instant sa capitale soit à Saint-Louis, il doit résoudre l'équation Mohamed V. Pour Sa Majesté, ce territoire fait partie du Maroc et pas question de le laisser prendre son autonomie. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Mokhtar Ouldada.
Mala romu nu ko fay ki la gis jek ni beug na la jam neexna.
Je refute, et comme toute la Mauritanie refute de la façon la plus formelle ces revendications qui ne reposent sur aucun fondement, ni historique, ni politique, ni économique, et que nous trouvons dépassées, périmées, car l'impérialisme est à jamais condamné par l'histoire, et l'impérialisme africain, l'impérialisme d'un pays musulman, d'un pays arabe, d'un pays africain contre un autre pays frère, est encore plus condamnable. Par conséquent, l'attitude marocaine doit être beaucoup plus gênante pour le gouvernement d'Araba que pour nous-mêmes.
La France ne recule devant aucun effort pour faire comprendre au Maroc l'intérêt qu'elle accorde à la Mauritanie. Le général de Gaulle va d'ailleurs effectuer en personne, dès 1959, un voyage à Nouakchott pour bien marquer l'autonomie de la Mauritanie par rapport au royaume de Mohamed V.
D'abord, je veux dire à monsieur le Premier ministre de la République islamique de Mauritanie combien les paroles qu'il vient de m'adresser m'ont touché. Oui, je suis très heureux de pouvoir faire une fois encore visite à la Mauritanie. Votre terre est particulièrement chère à la France et par conséquent à moi-même. Nous avons longtemps ensemble déjà vécu, travaillé et combattu. Et puis le peuple de Mauritanie est un peuple fier, courageux, qui en même temps a le culte de ses traditions. La Mauritanie est en bonne voie. Voici que commence l'exploitation, le chemin et l'emploi de votre fer. Il en sera ainsi bientôt, j'en suis sûr, de votre cuivre et sans doute aussi d'autres ressources. Comme l'a dit le Premier ministre tout à l'heure, cette œuvre de transformation s'accomplit par la coopération de la France avec la Mauritanie. Comment s'accomplirait-elle autrement? Votre peuple a pris en main son propre destin. Dans les années qui viennent, dans le temps qui est devant nous, il est probable qu'il y aura beaucoup de changements dans les institutions.
C'est l'évolution de ces institutions qui aboutit le 28 novembre 1960 à l'indépendance de la Mauritanie. L'occasion pour de nombreux chefs d'État africains de partager ce moment d'avancée de la liberté avec ce jeune chef qui entretient d'excellents rapports avec pratiquement tous ses homologues subsahariens. Cette indépendance qui coïncide avec les élections présidentielles en Côte d'Ivoire ne va pas empêcher le président Félix Houphouët-Boigny d'être de la partie.
Je peux dire la joie que nous avons à nous trouver ici à Nouakchott, à quelques heures de la proclamation de l'indépendance de la Mauritanie. Quand on sait qu'aujourd'hui ont lieu en Côte d'Ivoire des élections présidentielles et nationales et que j'ai dû quitter sans entendre les résultats, c'est vous dire le prix que nous attachons à l'indépendance de la Mauritanie. Pour tous ceux et nombreux en Afrique qui souhaitent la coopération confiante, fraternelle de tous les États africains, l'indépendance de la Mauritanie ne peut que les réjouir, car nous pensons que la Mauritanie a une vocation spéciale, particulière, celle de servir de trait d'union entre l'Afrique blanche et l'Afrique noire, et elle ne pourrait assumer ses responsabilités que dans la mesure où, avec le concours de tous, on pourrait préserver à ce pays toutes ses libertés.
En vertu de l'accord signé le 19 octobre 1960 entre la République française et la République islamique de Mauritanie, je proclame solennellement l'indépendance de la République islamique de Mauritanie.
Moment donc où le jeune Mokhtar Ouldada proclame l'indépendance, ce 28 novembre 1960, il est le premier ministre du jeune État. Et pour des raisons de festivité liées à cette déclaration de souveraineté internationale, il fait construire à la hâte la capitale Nouakchott. À ce moment, peu de gens croient au projet d'une capitale en plein désert. On part vraiment de rien. Mohamed Ali Sharif, le directeur de cabinet de Mokhtar Ouldada.
La Mauritanie, les années 60, c'était d'abord une Mauritanie qui constituait un point d'interrogation. Senghor disait de la Mauritanie à l'époque, la Mauritanie incertaine.
Ceci s'explique par le fait que le pays jusque-là était dirigé à partir de Saint-Louis au Sénégal. Sall Abdou Aziz, ancien président du Parlement.
Mais il fallait coûte que coûte quitter Saint-Louis. Nous ne pouvions pas rester à Saint-Louis. C'était trop excentrique par rapport à ce pays.
Symboliquement, le premier conseil des ministres va se dérouler sous une tente, à l'emplacement même de la future capitale.
Édition spéciale, une émission de reportage et de documents du journal Parler. Ce soir, la Mauritanie, une réalisation de Jean Lefebvre.
Ô étranger, quel malheur t'a conduit dans cette île inhabitée ?
Je ne m'attendais guère à cette réplique en venant visiter Nouakchott. C'est un gosse de 12 ans qui lit, avec application, ses classiques grecs par 40 degrés de chaleur dans une pièce à claire-voie qui donne sur le désert et qui tient lieu de lycée, car cet élève, avec une dizaine d'autres, est en 6e classique.
Je ne puis plus parler à personne depuis si longtemps dans cette solitude. Ne sois pas effrayé de voir un homme si malheureux, tu dois en avoir pitié.
Durant quelques mois, les gosses du lycée doivent quitter leur classe pour laisser place aux membres de l'Assemblée législative qui tient session. Ils vont s'installer dans le local provisoire du palais de justice ou ailleurs, car tout ici est en puissance. Nouakchott est en train de naître. Quand on arrive par avion, on croit rêver. Un grand panneau jaune d'or annonce en lettres capitales Nouakchott, capitale de la Mauritanie. Tout autour, c'est le désert le plus plat. Un ksar de faible importance marque l'endroit, mais la future capitale est tracée à côté, dans le sable, je dis bien tracée, car les rues existent avec les places et même les parkings, mais les maisons n'existent pas encore, ou fort peu. Il y a même un sens interdit parmi ces rues. On sourit ou on admire. La capitale de la République islamique de Mauritanie sort du sable. Une dizaine d'immeubles sont en construction. Trois sont terminés. On a fait venir des grues de Dakar pour monter les murs plus rapidement. Ils ont été entrepris, m'a-t-on dit, en décembre et dans un mois, les locataires pourront prendre les clés. Locataires à Nouakchott, direz-vous, en plein désert. Et pourtant, les immeubles font trois étages, chaque appartement a sa terrasse et sa salle de bain. Il n'y manque plus que l'eau, mais elle va venir. Une conduite l'amène d'un puits qui est situé à 70 km de là, dans un château d'eau en construction. Tout cela s'organise, se crée. Il y a un an, l'eau venait encore par camion de Rosso, à 200 km d'ici. Il y a 5 ans, le ksar n'en possédait même pas. Et je suppose qu'il y a 10 ans, je n'aurais rien trouvé du tout à cet endroit. J'ai interrogé sur ce point mon confrère de Radio Mauritanie.
Vous y auriez trouvé une étape de chamelier, il y avait des puits et un ksar modeste. C'était une étape de caravane. Et puis, ce ksar a pris de l'importance dans la mesure où il est sur une piste elle-même assez importante, la piste Rosso, Fort Trinquet. Et peu à peu, Nouakchott est devenu une étape pour les convois automobiles, pour les camions.
C'est ça. Seulement, Nouakchott est effectivement un point d'une piste importante, mais il y en a d'autres points importants. Je pense à Attar, par exemple. Alors, quelle est la raison qui a conduit les autorités mauritaniennes à choisir Nouakchott comme capitale?
Donc, Nouakchott se trouve, si vous voulez, au point de rencontre des deux ethnies principales qui vivent en Mauritanie, je veux dire les populations du fleuve qui sont noires et les populations du nord, qui sont blanches. C'est un point de jonction. Bien entendu, les populations blanches descendent beaucoup plus au sud, même au-delà du Sénégal, bien sûr. Les populations noires remontent plus haut également, mais si vous voulez, c'est le point d'équilibre.
D'ailleurs, à Nouakchott, on trouve les deux populations.
Exactement, vous avez pu le constater.
Le point de Nouakchott étant choisi, il s'agissait d'y construire une capitale digne de ce nom, c'est-à-dire non seulement avec ses bâtiments administratifs, mais aussi avec les logements nécessaires à tout le personnel.
À ce sujet, on dit, je n'étais pas là, mais on dit que Maître Mokhtar Ouldada, Premier ministre, avait décidé, avec la ténacité qu'il caractérise d'ailleurs, que Nouakchott existerait tout de suite. Alors, il a quitté Saint-Louis parce qu'il trouvait anormal que la Mauritanie ait une capitale hors de son territoire.
Cette étape qui était réservée aux camions de passage va rapidement, malgré la chaleur et le vent sifflant du désert, devenir une ville, Nouakchott, la capitale du jeune État. Il faudra attendre 1961 pour que le jeune Mokhtar Ouldada, qui n'a alors que 36 ans, devienne le président de la République. Candidat unique d'Union nationale, Maître Mokhtar Ouldada est élu le 20 août 1961 au suffrage universel président de la République. L'homme qui n'avait cessé d'attirer l'attention de ses collègues d'AOF et d'AEF, l'Afrique occidentale française et l'Afrique équatoriale française, et celle du gouvernement français sur le drame algérien et sur l'inopportunité de poursuivre des expériences nucléaires au Sahara, ne modifie point sa ligne de conduite. Il faut dire que le territoire dont hérite le jeune Mokhtar Ouldada est un désert sans réelle richesse, où tout est à faire.
Voilà la Mauritanie demain, un pays moderne, c'est-à-dire un pays agricole, pastoral et surtout mini. 5/6 de la population sont nomades. Les mines, alors, c'est la condition sine qua non de l'existence de la Mauritanie nouvelle. Si nos mines de fer de Fort-Gouro ne démarrent pas, la Mauritanie, et je vous l'ai dit très sincèrement et avec une grande amertume, ne se fera pas.
Cette indépendance arrive dans des conditions particulières. Le roi Mohamed V réclame la Mauritanie comme faisant partie intégrante de son royaume. Il évoque pour cela l'histoire, la religion et l'ethnie. Pour Mokhtar Ouldada, ces arguments ne sont pas du tout recevables.
On ne peut pas fonder une revendication moderne sur une histoire. Que diraient les Belges si les Français, par exemple, sortaient un argument pareil?
Il bénéficie d'ailleurs de l'aide officielle et logistique de la France, comme il me l'expliquait plusieurs décennies après, lorsque je suis allé le voir à Nice, dans le sud de la France. Mokhtar Ouldada.
Effectivement, le Maroc revendiquait toute la Mauritanie, alors que la Fédération du Mali ne revendiquait qu'une partie, le Mali et l'Ouest, l'Est, à cause de problèmes de textes coloniaux déterminant les frontières de la Mauritanie et du Soudan, et le Sénégal d'une façon moins pressante, mais la frontière c'est le fleuve Sénégal. Nous avions donc ces problèmes, tandis que le Maroc, lui, revendiquait toute la Mauritanie en tant que partie intégrante du Maroc. Et il nous a fallu nous défendre contre les uns et contre les autres, malgré la faiblesse de nos moyens. Et grâce à la volonté du peuple mauritanien d'abord, et de l'aide de la France aussi, et par la suite, après l'éclatement de la Fédération du Mali, de l'aide des États de l'UAM que nous avons, chemin faisant, créé en 60, je crois, à Brazzaville, et qu'on a appelé les groupes de Brazzaville d'ailleurs. L'armée de libération du Maroc a essayé d'envahir le nord de la Mauritanie. Comme nous ne pouvions pas nous défendre nous-mêmes, nous avons demandé à la France de nous défendre. Et la France l'a fait, à un moment donné d'ailleurs, en coordination avec l'Espagne.
Le royaume marocain va finalement renoncer à ses revendications territoriales sur la Mauritanie, liées au concept du Grand Maroc développé par Alal El Fassi, le fondateur du parti de l'Istiklal. Il se résigne à la reconnaître formellement. Lors de leur première rencontre, en 1969, à l'occasion du sommet islamique de Fès, Hassan II confessera au président mauritanien Mokhtar Ouldada qu'il n'avait jamais cru au bien fondé des revendications marocaines sur la Mauritanie, mais qu'il avait été obligé de les endosser par filiation dynastique.
Vous savez que la Mauritanie est aussi bien blanche que noire est divisée en trois castes. C'est un pays encore moyenâgeux, caste guerrier,
marabouts qui correspondent aux nobles et aux clergés de votre ancienne France, et les tiers états, et votre tiers état est remplacé ici par tous ceux qui ne sont ni marabouts ni guerriers. L'ensemble de ces gens-là sait qu'il appartient à la Mauritanie, mais il appartient d'abord à une caste. On est guerrier ou marabout avant d'être mauritanien. Ensuite, à l'intérieur de chaque caste, on est de telle tribu ou de telle tribu. Il faut donc substituer à cette notion de tribu et de caste une idée nationale.
Le pays que doit construire le jeune Mokhtar Ouldadeh est un ensemble hétéroclite, avec de nombreuses divisions. Faisons ensemble une nation. C'est le slogan qu'il promeut à la télévision et surtout le territoire. Mohamed Ali Sharif, le directeur de cabinet de Mokhtar Ouldadeh.
Faisons ensemble la nation mauritanienne. C'était plus qu'un slogan, c'est une conviction forte chez lui. Et il a rassemblé des gens aussi difficiles à rassembler parce que, vous le savez très bien, les tribus étaient extrêmement divisées.
À l'intérieur du pays commence donc un difficile combat mené sur deux fronts. D'une part, le président de la République mauritanienne doit faire face aux pressions des éléments traditionnels qui rêvent d'ériger une théocratie au sein de laquelle les rênes du pouvoir appartiendraient à quelques familles guerrières et maraboutiques. À cela, Mokhtar Ouldadeh oppose un réformisme lucide et courageux. D'autre part, les extrémistes de l'ancien parti Narda, suspects de sympathie pro-marocaine, considèrent le leader mauritanien comme un tiède. Pour eux, il faut rompre totalement avec le passé pour s'engager sur les voies du socialisme. Malgré ses désirs personnels, il doit alterner persuasion et contrainte. C'est alors que, devenu secrétaire général du Parti du Peuple, PPM, depuis le 25 décembre 1961, M. Ouldadeh s'attache à renforcer les structures du parti unique, à étendre l'implantation du PPM à tout le pays, à accéder à la formation politique de ses concitoyens, à convaincre les défenseurs d'un système parlementaire de type occidental que celui-ci est inadapté aux réalités locales. Abdulaziz Sall, ancien président du Parlement.
Au départ, il fallait nécessairement l'unité politique. À l'époque, il y avait quatre partis. Quatre partis. Et chacun de ces partis a tiré de son côté. Alors, cela étant, il n'était pas possible de construire la nation qui en était à ses débuts.
Le président Mokhtar Ouldadeh, en ce début de la décennie 60, doit résoudre cette épineuse question de la diversité ethnique, des divisions qui persistent dans la jeune nation. Il faut peut-être changer de stratégie. Les compromis, les arrangements, le dialogue sont-ils les meilleures options? Comment va-t-il parvenir à faire cohabiter les Maures arabo-berbères, dits Maures blancs, ou les Aratines, dits Maures noirs, anciens esclaves arabophones, et un ensemble noir africain composé de plusieurs ethnies, tels que les Peul, Soninké, Wolof et Bambara. Bref, comment créer une nation unie avec toutes ces identités dans cet ensemble? La tâche est immense. Il a sa petite idée, comme nous le verrons la semaine prochaine dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale, Mokhtar Ouldadeh. Vous pouvez évidemment réécouter ces deux premières parties sur le site du RFI, la rubrique podcast, ou sur le site archivesdafrique.com, ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique sur Google Play ou sur iOS. Vous pouvez aussi réagir sur notre page Facebook, la première sur notre antenne, avec ses 600 000 amis. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour la suite de notre série d'Archives d'Afrique spéciale Mokhtar Ouldadeh. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. À très vite.
Les Archives d'Afrique, Alain Foucault.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Et j'ai parlé parfois d'un mot qui fait sourire, surtout puisque vous parliez tout à l'heure du désert, la Suisse africaine. Mon plus vif désir, mon plus ardent désir et celui de mes compatriotes et de mes amis politiques, c'est de faire de la Mauritanie la Suisse africaine qui servira non seulement de trait d'union entre les deux parties de l'Afrique, mais dans un avenir prochain, de trait d'union entre l'Afrique et l'Europe.
Timide, courtois, simple et discret. Des qualités presque incompatibles avec la lourde responsabilité qui était la sienne. notamment celle de faire admettre à l'intérieur comme à l'extérieur la réalité d'un État dont l'existence, même à ses débuts, a été contestée par le voisin du Nord, le Maroc. Faire naître de toutes pièces en plein désert un ensemble hétéroclite composé de plusieurs tribus rivales, la Mauritanie. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Mokhtar Ouldada.
En vertu de l'accord signé le 19 octobre 1960 entre la République française et la République islamique de Mauritanie, je proclame solennellement l'indépendance de la République islamique de Mauritanie.
Cette indépendance, proclamée ce 28 novembre 1960, arrive dans des conditions particulières. Le Maroc de Mohamed V réclame la Mauritanie comme faisant partie intégrante de son royaume. Il évoque pour cela l'histoire, la religion et l'ethnie. Il faut préciser que certains Mauritaniens ont déjà fait allégeance au roi Mohamed V.
La visite officielle de Sa Majesté Mohamed V dans le sud du pays ne constitue qu'un des aspects les plus récents de la souveraineté marocaine sur la Mauritanie. Ce vaste territoire d'un million de kilomètres carrés est peuplé d'un million d'habitants. Soucieuse de défendre ses propres intérêts, la France s'est empressée, au lendemain de l'indépendance, de constituer une république islamique de Mauritanie détachée de la souveraineté marocaine, sous la conduite d'un pseudo-gouvernement. Les Mauritaniens, conscients du véritable intérêt de la Mauritanie, se trouvent actuellement à Rabat ou à Dakar, ne pouvant pratiquement rentrer chez eux sous peine d'être mis en état d'arrestation. Le problème des frontières sur lequel le gouvernement de Sa Majesté n'a cessé de revenir depuis l'indépendance doit être réglé dans le sens de l'équité. La côte atlantique marocaine s'étend de Tanger à Saint-Louis du Sénégal. La Mauritanie tout entière fait partie intégrante du territoire marocain.
Pour Mokhtar Ouldada, ces agitations et les arguments qu'évoquent le roi du Maroc et les compatriotes qui lui ont prêté allégeance ne sont pas du tout recevables.
On ne peut pas fonder une revendication moderne sur une histoire. Que diraient les Belges si les Français, par exemple, sortaient un argument pareil ?
Mokhtar Ouldada bénéficie d'ailleurs de l'aide officielle et logistique de la France, comme il me l'expliquait plusieurs décennies après lorsque je suis allé le voir à Nice, dans le sud de la France. Mokhtar Ouldada.
Effectivement, le Maroc revendiquait toute la Mauritanie, alors que la Fédération du Mali ne revendiquait qu'une partie, le Mali et l'Ouest, l'Est, à cause de problèmes de textes coloniaux déterminant les frontières de la Mauritanie et du Soudan, et le Sénégal d'une façon moins pressante, mais la frontière c'est le fleuve Sénégal. Nous avions donc ces problèmes, tandis que le Maroc, lui, revendiquait toute la Mauritanie en tant que partie intégrante du Maroc. Et il nous a fallu nous défendre contre les uns et contre les autres, malgré la faiblesse de nos moyens. Et grâce à la volonté du peuple mauritanien d'abord, et de l'aide de la France aussi, et par la suite, après l'éclatement de la Fédération du Mali, de l'aide des États de l'UAM.
Le royaume marocain va finalement renoncer à ses revendications territoriales sur la Mauritanie, liées au concept du Grand Maroc développé par Alal El Fassi, le fondateur du parti de l'Ixtilal. Il se résigne à la reconnaître formellement. Lors de leur première rencontre en 1969, à l'occasion du sommet islamique de Fès, Hassan II confessera au président mauritanien Mokhtar Ouldada qu'il n'avait jamais cru au bien fondé des revendications marocaines sur la Mauritanie, mais qu'il avait été obligé de les endosser par filiation dynastique.
Et l'ensemble de ces gens-là sait qu'il appartient à la Mauritanie, mais il appartient d'abord à une caste. On est guerrier ou marabout avant d'être mauritanien. Ensuite, à l'intérieur de chaque caste, on est de telle tribu ou de telle tribu. Il faut donc substituer à cette notion de tribu et de caste une idée nationale.
Le président Mokhtar Ouldada, en ce début de la décennie 60, doit résoudre cette épineuse question de la diversité ethnique, des divisions qui persistent dans la jeune nation, comme le témoigne cet extrait d'un reportage de l'ORTF, l'Office de radio-télévision française, au moment de l'indépendance.
Comment distingue-t-on un guerrier d'un marabout ?
Généralement, les guerriers se distinguent par sa chevelure qui est crépue, puis par une certaine marche cadencée, par le tempérament agressif. Et puis, le marabout se caractérise par une certaine mollesse, il est pacifique, il a les cheveux plats, puis...
Il marche moins vite que le guerrier.
Moins vite que le guerrier. Généralement, il parle moins vite, plus pacifique.
Voulez-vous demander au chef s'il pense que toutes ces castes sont appelées à disparaître dans la Mauritanie nouvelle ?
عندنا عندك من فصول الناس كيف العرب والزوايا والزناقه والعبيد والمعلمين ذاك الشيء عندك من اللي هاجب يوقد في موريتانيا الجديد والله ابسوليمون سا ديسباريترا جو بونس
الجديد يبطاهم ما
سوف لي سيرفيتور سا ديرا
يبطاهم ما
تخبر لي سيرفيتور سا ديرا لونتان انكور
لي سيرفيتور ايتان لو نوار بيان انتندو
qu'est-ce que ça signifie pour vous d'être guerrier maintenant il n'y a plus de guerre
il n'y a plus de guerre mais aujourd'hui on considère un guerrier c'est pour construire son pays
oui Vous avez l'impression que...
C'est-à-dire aujourd'hui, nous les guerriers, notre devoir, c'est de construire notre pays, la Mauritanie.
Vous êtes marié ?
Oui, je suis marié.
Votre femme n'est pas ici ?
Non, elle n'est pas. Elle se trouve en ce moment en Brousse.
Dans la Brousse ? Pourquoi oui. ne vit-elle pas avec vous ?
Ça ne m'intéresse pas de laisser en Brousse, mais seulement elle est trop jeune.
Quel âge a-t-elle ?
Elle a 12 ans.
Vous êtes guerrier, les guerriers avaient, il y a encore peu de temps, des captifs, n'est-ce pas ?
Dans le temps, existait, mais aujourd'hui, c'est pas grand-chose qui reste.
Tous les captifs étaient des noirs, toujours ?
Oui, il a la couleur noire.
Mais ce petit garçon qui est là, qui est
tout
plus
à
noir,
oui. les autres. Il est, ce garçon-là, c'est un esclave dans l'État. Mais aujourd'hui, son père, c'est un type qui travaille à l'inscription maritime, c'est un fonctionnaire. C'est un travailleur, il n'a rien à voir avec personne.
Il est libre.
Il est libre.
Mohamed Ali Sharif, le directeur du cabinet de Mokhtar Ouldada.
Dans une situation où les guerriers étaient encore très forts, Il ne reconnaissait pas l'autorité de Mokhtar, pratiquement. D'autant plus qu'il n'avait pas d'armée. Il n'y avait rien.
Il faut préciser que la Mauritanie constitue un espace de contact entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, ce qui en fait un pays pluriethnique. Elle est majoritairement peuplée d'une communauté arabe et berbère dans laquelle se distinguent deux groupes. Les Maures arabo-berbères dits Maures blancs, ou Bédanes, qui représenteraient 40%, et les Aratines dits Maures noirs, anciens esclaves arabophones d'origine bafoue, qui seraient 30% de la population, et d'un ensemble noir africain composé de plusieurs ethnies, tels que les Peuls, les Soninké, les Wolof et Bambara, qui représenteraient également 30% de la population. Après moult tergiversations et tractations, Mokhtar Ouldada va parvenir à un fragile équilibre. Mohamed Ali Sharif, le directeur de cabinet de Mokhtar Ouldada.
Faisant ensemble la nation mauritanienne, c'était plus qu'un slogan, c'est une conviction forte. Chez lui, et il a rassemblé des gens aussi difficiles à rassembler parce que, vous le savez très bien, les tribus étaient extrêmement divisées.
Nous avons besoin d'hommes soucieux d'apprendre auprès du peuple et d'apprendre au peuple à organiser une action positive. Nous avons besoin d'hommes débarrassés de tout complexe, de tout préjugé, d'hommes dynamiques qui sauront vivre avec les masses. S'ouvrir aux problèmes des masses.
Mais l'unité politique si essentielle n'est pas le seul problème sérieux à résoudre dans cette période. Puisque dans ses années de naissance, la Mauritanie n'a aucune ressource propre significative. L'élevage, déjà fragilisé par la sécheresse, constitue son principal revenu, qui fait vivre la majeure partie de sa population. C'est le principal produit d'exportation vers la plupart des pays de l'AOF, l'Afrique occidentale française, et plus particulièrement vers le Sénégal et vers le Soudan français. Mais cette exportation quantitativement importante ne rapporte pratiquement rien au trésor public mauritanien qui existait à peine et dont la dépendance de droit et le fait des services sénégalais limitaient considérablement les possibilités d'action. L'agriculture, quant à elle, aux méthodes archaïques, soumises aux aléas climatiques, ne suffit pas à nourrir la population. Quant aux recettes douanières et autres, elles sont principalement perçues au Sénégal par les services sénégalo-mauritaniens. Il faut rappeler que jusqu'à l'autonomie interne et surtout jusqu'à l'indépendance, la France, à partir de Saint-Louis, administrait la Mauritanie comme une circonscription administrative sénégalaise. Donc après l'accession à la souveraineté internationale, les recettes propres du pays ne couvrent que 40% du maigre budget du territoire. Les 60% restants étaient accordés sous la forme de subventions, soit par la Fédération de l'AOF, l'Afrique occidentale française, soit directement par la France. Sall Abdoulaziz, ancien président du Parlement.
Nos impôts ne suffisaient pas pour faire fonctionner notre budget. Eh bien, c'est la France qui nous donnait une subvention d'équilibre. Mais, moyennant contrôle de ce que nous faisions, l'exécution du budget. Alors, nous avons décidé de renoncer à cette dimension d'équilibre.
Décision lourde de conséquences, mais qui traduit la volonté d'indépendance réelle qui anime le jeune chef d'État. C'est l'espoir dans ce sombre tableau économique, la mi-ferma.
Vous voudriez sans doute savoir ce que je suis allé faire aux États-Unis.
Très exactement.
Eh bien, je suis allé soutenir le dossier présenté par la mi-ferma, qui est la société
de mines
qui doit exploiter les mines de fer de Mauritanie. Cette société, qui a besoin de beaucoup d'argent, a demandé un prêt d'une soixantaine de millions de dollars à la Bird, et je suis allé expliquer aux dirigeants de cette banque internationale tout l'intérêt que mon territoire attache
à
la réalisation à l'octroi de ce prêt.
Qui permettrait évidemment...
Aux travailleurs de Mauritanie de trouver du travail, qui permettrait la mise en valeur du pays et partant, qui nous permettra à nous, gouvernants de Mauritanie, de pouvoir élever le niveau de vie de nos populations.
Pensez-vous avoir obtenu satisfaction ?
Il me serait difficile de vous répondre, madame, mais je pense avoir convaincu dans une certaine mesure mes interlocuteurs.
Vos pourparlers n'ont-ils pas été gênés par les prétentions que le Maroc sur votre territoire?
Non, pas particulièrement. Au contraire, je crois que ce voyage qui avait un caractère essentiellement économique m'a permis de prendre un grand nombre de contacts avec les délégations de l'ONU, aussi bien arabes qu'occidentales, et avec les secrétaires généraux de l'ONU, avec les départements d'État américains, pour leur exposer la position de la Mauritanie vis-à-vis de ces revendications.
La mi-ferma, la mine de fer de Mauritanie, est la principale lueur d'espoir pour le jeune État. En signant le 17 mars 1960 à Washington DC, l'accord pour lequel la Bird, octroyée à la mi-ferma, avec la garantie conjointe de la France et de la République islamique de Mauritanie, un prêt de 66 millions de dollars, elle devient réalité. Le pays dont hérite le jeune Mokhtar Ouldada, bien que tout reste à construire, se porte plutôt bien. En tout cas, il jouit d'une bonne santé économique. Les principales industries sont certes tenues par les Français, mais elle lui assure le développement du pays. La France y fait de nombreux investissements, notamment en matière de routes et d'exploitation de minerais de fer et de cuivre. Pendant quelques années, la Mauritanie va connaître la paix et le développement. Son seul souci se situe sur le plan de sa reconnaissance, ou plutôt de son intégration au sein de l'Organisation des Nations Unies. Le jeune pays va faire les frais de la guerre froide, puisque l'Union soviétique oppose son veto à son entrée à l'ONU.
Le fait que l'URSS ait opposé son veto à l'admission de la Mauritanie à l'ONU présente-t-il un handicap international pour la République islamique de Mauritanie ?
Présente un handicap en ce qui concerne l'entrée de la Mauritanie à l'ONU comme État membre, mais en aucune autre façon il représente un handicap sur le plan international en dehors de l'ONU. Vous savez que pour être admis à l'ONU, il faut un vote favorable des 5 membres permanents, c'est-à-dire les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, la Chine et l'URSS. Or, l'URSS, pour des raisons que vous connaissez, a opposé son veto. Donc, la candidature de la Mauritanie est bloquée pour le moment.
La Mauritanie fera-t-elle à nouveau acte de candidature ?
Bien entendu, sa candidature est, pour ainsi dire, permanente. Et je pense que, en ce qui la concerne, comme en ce qui concerne plusieurs autres États, l'URSS finira par réviser sa position. L'URSS s'est servi du cas de la Mauritanie pour faire du marchandage et faire renaître la guerre froide, en proposant la candidature de la Mongolie extérieure qu'elle présente constamment depuis 15 ans. Et je pense donc que finalement elle se rendra compte de son erreur, d'autant plus que les États africains ont été unanimes à désapprouver son acte. Et je crois savoir que cela commence à toucher ses représentants, en tout cas à New York. Et de ce fait, peut-être, elle reviendra à la raison.
Sur le plan continental, Mokhtar Ouldada est très apprécié de ses pairs. Il mène une diplomatie très active. C'est d'ailleurs l'un des principaux artisans de la solidarité entre les nouveaux États subsahariens. Il sera à Addis Ababa, en Éthiopie, en 1963, lors de la naissance de l'OUA. l'organisation de l'unité africaine.
Voilà 3 ans, réunis dans cette même salle, nous nous sommes rencontrés pour tenter de trouver ensemble les remèdes aux difficultés que notre continent doit affronter. Nous avons signé la charte historique de l'Organisation de l'Unité africaine. Mis à part le caractère historique de cette unité, nous avons voulu en fait démontrer l'utilité de cette organisation qui se réunit chaque année.
Si Mokhtar Ouldadeh est très apprécié de ses pairs, il tient à conserver une certaine indépendance idéologique. C'est cette attitude qui le conduit, en juillet 1965, à quitter l'Organisation commune africaine et malgache, l'OCAM, dont il était pourtant le président en exercice. Il estime que l'admission du Congo-Léopoldville au sein de l'OCAM apporte une caution éclatante à Moïse Tshombe, dont la personnalité lui semble contestable.
Monsieur le Président, avez-vous évoqué avec le Président de la République le projet de francophonie ?
Non. Nous disons que la francophonie, nous y sommes déjà, puisque le français est notre langue officielle. Nos ministres de l'éducation avec ceux de la France se réunissent 2 fois par an. Notre enseignement est en grande partie donné en français, par conséquent, nous faisons déjà de la francophonie.
À leur conférence de Tananarive, les chefs d'État francophones ont unanimement exprimé le souhait de voir la Mauritanie revenir dans leur organisation, l'OCAM. Est-ce que c'est une possibilité que vous envisagez, Monsieur le Président?
Comme vous le savez, la Mauritanie est toujours dans les organisations techniques de l'OCAM. Elle entretient des relations excellente avec tous les États de l'OCAM sur le plan bilatéral. Quant à son retour à l'organisation mère, si j'ose dire, ce retour n'est pas envisagé.
Le président Houphouët Boigny, qui vient de vous recevoir très chaleureusement à Abidjan, a fait savoir qu'il ne se rendrait pas à la prochaine conférence de l'unité africaine à Addis Abeba. Irez-vous vous-même, monsieur le président?
Oui, moi j'ai déjà donné mon accord il y a 2 ou 3 mois lorsque la question a été posée. Et j'irai, Inch'Allah, à la conférence si elle a lieu.
Le premier incident sérieux auquel va être confronté le jeune président Mokhtar Ouldadeh, qui désormais a imposé le parti unique pour essayer de juguler les tensions tribales, arrive en 1966. Le président Mokhtar Ouldadeh décide de rendre la langue arabe obligatoire dans l'enseignement. La communauté noire, qui elle n'est pas de culture arabophone, ne souhaite pas apprendre cette langue. Pour elle, cette politique vise essentiellement à régner sa culture et à se faire à nouveau coloniser par les arabo-berbères. C'est le début des émeutes de 1966 que le président choisit de réprimer sévèrement. Une cassure franche se crée alors aussitôt entre les races de Mauritanie. Une rupture qui va sérieusement toucher le slogan d'unité qui avait cours jusque-là, comme nous le verrons dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale Mokhtar Ouldadeh. Les négros mauritaniens en cette année 1966 se sentent exclus. On en parle juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.
Les archives d'Afrique, Alain Foucault.
Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Nous avons besoin d'hommes soucieux d'apprendre auprès du peuple et d'apprendre au peuple à organiser une action positive. Nous avons besoin d'hommes débarrassés de tout complexe, de tout préjugé, d'hommes dynamiques qui sauront vivre avec les masses, s'ouvrir aux problèmes des masses.
L'histoire retient de lui la naissance de l'État mauritanien dont il proclame l'indépendance le 28 novembre 1960, dans une ville de Nouakchott toute neuve et aménagée pour la circonstance.
Les guerriers étaient encore très forts, ils ne reconnaissaient pas l'autorité de Mokhtar pratiquement. D'autant plus qu'il n'avait pas d'armée. Il n'y avait rien.
Mokhtar Ouldadeh, parti quasiment de rien, commence en cette première moitié de la décennie à asseoir son autorité sur un vaste désert de sable qui n'avait même pas de capitale. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Mokhtar Ouldadeh. Dans cette première moitié de la décennie 1960, Mokhtar Ouldadeh est parvenu à installer un régime fort, voire autocratique. Il est désormais craint par les différentes forces traditionnelles et le parti unique qu'il a installé lui est fidèle. Il a aussi réussi à trouver des collaborateurs qui l'aident à mettre en œuvre son désir d'indépendance réelle vis-à-vis de l'ancienne métropole. Son pouvoir est conforté et respecté de ses pairs, même si la question marocaine, qui continue de manifester des velléités d'annexion, reste un souci. Pas grand-chose à craindre puisqu'il a le soutien très actif de Paris, mais également de nombreuses nations africaines. Le premier incident sérieux auquel va être confronté le jeune président Mokhtar Ouldadeh, qui désormais a imposé le parti unique pour essayer de juguler les tensions tribales, arrive en 1966. Le président Mokhtar Ouldadeh décide de rendre la langue arabe obligatoire dans l'enseignement. La communauté noire, qui elle n'est pas de culture arabophone, ne souhaite pas apprendre cette langue. Pour elle, cette politique vise essentiellement à régner sa culture et à se faire à nouveau coloniser par les arabo-berbères. C'est le début des émeutes de 1966 que le président choisit de réprimer sévèrement. Une cassure franche se crée alors aussitôt entre les races de Mauritanie. C'est d'ailleurs cette initiative qui fait dire encore aujourd'hui, notamment par les négro-africains de Mauritanie, qu'il est le véritable initiateur de la politique d'exclusion dont ils sont encore fortement victimes aujourd'hui. À cette réflexion, voici ce que nous répondait le président Mokhtar Ouldadeh. Il faut tendre l'oreille parce qu'il était déjà très fatigué et très malade lorsqu'il nous a accordé cette interview.
Je répondrai que c'est absolument faux, que quand il y a eu des manifestations, nous les avons combattues parce que notre pays ne pouvait pas se permettre le luxe d'aller dans le désordre. Nous n'avons jamais fait de ségrégation raciale, car moi je dis que la Mauritanie sera biethnique ou ne sera pas, seulement pour des raisons d'histoire coloniale. Au moment de l'accession de l'autonomie interne, nous n'avions pas de cadre. Et les peu de cadres que nous avions étaient natifs du Sud. Ils étaient plus nombreux dans l'administration coloniale et les hassanophones, c'est-à-dire les gens de la Haute-Mauritanie, n'étaient pas scolarisés et voulaient et malgré tout participer à la vie nationale. Et nous avons dû faire la place de l'arabe à l'arabe, qui est notre langue nationale dans le nord du pays. Et c'est pour faire place à ces arabisants, il a fallu diminuer la place de nos compatriotes du Sud.
Sur le plan économique, Mokhtar Ouldadeh procède dans les années 1974 et 1975 à une série de nationalisations, comme la Miferma, la mine de fer de Mauritanie, et la Somima. Les deux deviennent tout simplement la SNIM, la Société Industrielle et Minière.
Au nom du peuple mauritanien, de son parti et de son gouvernement, je vous annonce la décision que je viens de prendre de nationaliser à partir de cet instant la société des mines de fer de Mauritanie, dite Miferma.
Dans le même temps, Mokhtar Ouldadeh va aider les hommes d'affaires mauritaniens à prendre le pouvoir dans la plupart des entreprises industrielles installées sur le territoire national. Il décide aussi de quitter le franc CFA pour créer la monnaie mauritanienne, l'ouguiya.
J'en appelle à vous tous, chers compatriotes de tous les secteurs de la vie nationale, pour vous inviter à faire preuve d'un engagement encore plus profond pour renforcer toujours davantage notre monnaie. L'entreprise est en effet des plus glorieuses et l'étape assurément historique.
Cette vague de nationalisation est plutôt bien appréciée et même saluée par les Mauritaniens. Mohamed Ali Sharif, son directeur de cabinet.
Pour lui, c'était récupérer la dignité et la souveraineté de la Mauritanie. Et rien ne pouvait l'arrêter quand il s'agissait de la souveraineté de la Mauritanie.
À la question de savoir s'il était vraiment nécessaire de créer une monnaie mauritanienne, si cela s'imposait vraiment, voici ce que répondait le président Mokhtar Ouldada il y a quelques années.
Cela s'imposait par, dans ma conception, bien que nous n'ayons pas la force et les moyens d'une indépendance arrachée, nous avons été obligés de participer à la décolonisation par l'attribution octroyée et ce n'était pas l'indépendance. Alors nous disons qu'il faut parfaire ce que le colonisateur a donné et avoir en vue l'indépendance. Et l'indépendance ne peut avoir un de ses instruments essentiels, qui est l'économie, qu'avec une monnaie nationale. Je n'étais pas dirigé contre l'Afrique. Nous étions membres à part entière de toutes les organisations régionales. Donc, nous avons voulu compléter notre autonomie d'abord, indépendance ensuite. Et ça n'a jamais été fait contre quiconque, parmi nos compatriotes ou parmi les Africains.
Et avec le recul, est-ce que vous pensez que finalement ça a été un succès ou bien un échec d'avoir pris cette décision qui était avant tout idéologique?
Moi, je pense que c'est un succès parce que nous avons, par cette mesure, maîtrisé notre économie qui était naissante, qui était faible. Mais quand on ne peut pas disposer de cet attribut de souveraineté qui est le fait de battre monnaie, on n'est pas indépendant.
Monsieur Amédou Oul Abdallah, vous avez été l'un des plus proches collaborateurs du président Mokhtar Ouldada comme ministre du Commerce et de l'Industrie. Il y a plusieurs postes importants. Avec le recul, comment jugez-vous sa politique économique dans ces années-là?
L'efficacité de la gestion elle-même, telle qu'elle était à un moment donné appuyée par certains pays, n'était pas bien comprise. Et je pense, quand on regarde les bilans après, la gestion était... Le moins qu'on puisse dire était désastreuse. Les nationalisations de minerais de fer et de cuivre, non pas la nationalisation elle-même, mais les remboursements faits étaient au-delà des moyens du pays.
Sal Abdulaziz, ancien président du Parlement.
On doit s'en féliciter, parce qu'on ne doit rien à personne, sur tous les plans. Et actuellement, alhamdulillah, notre commerce est autonome. Toutes nos activités économiques, c'est nous qui les gérons.
Voici ce que nous en disait il y a quelques années le Premier ministre Pierre Messmer lorsque nous lui avons posé la même question.
Je ne crois pas que la Mauritanie en ait eu un grand bénéfice. Pour Mokhtar Ouldada, je crois que c'était une sorte de manifestation de son sentiment national. Je veux dire, on peut dire de la même façon que sa sortie de la zone franc pour créer une monnaie nationale. Pour lui, ce n'était pas parce qu'il pensait qu'il y trouverait un avantage économique et ou financier. Je crois que c'était tout le contraire. Mais c'était l'expression d'une volonté de construction nationale.
Sur le plan diplomatique, Mokhtar Ouldada est très actif. Il va faire jouer à son pays un rôle d'état charnière entre l'Afrique blanche et l'Afrique noire. C'est l'aspect de sa politique dont il se montre le plus fier.
Et tant que l'OIA et chacun de nos états ouvrent les yeux sur l'expansionnisme israélien et sur le défi combien arrogant qu'il continue de lancer à l'opinion publique internationale et d'abord à notre organisation dont il a rejeté de façon définitive tous les efforts dans la recherche d'une solution à la crise que ces agressions répétées ont ouvertes dans la partie nord-est de l'Afrique.
Après 10 années de lutte diplomatique, Mokhtar Ouldada va même parvenir à se faire reconnaître par le Maroc qui jusque-là niait son existence et qui s'était même fortement opposé à son indépendance. Il se lie d'amitié tant avec les pays d'Afrique noire qu'avec ceux du Maghreb, aussi bien avec des pays socialistes qu'avec ceux du bloc de l'Ouest. Il entretient naturellement une relation privilégiée avec les pays arabes, dont il devient d'ailleurs l'un des entremetteurs pour les pays du sud du Sahara. Mais en même temps, Nouakchott accueille de nombreux mouvements de libération.
Le mouvement palestinien était là. Le mouvement de la Guinée-Bissau était là. J'en parle en connaissance de cause parce que j'étais permanent du parti. C'est moi qui l'ai géré. Et il n'y a pas que ces mouvements d'ailleurs. Chaque fois qu'on a pu le faire, on l'a fait. On a aidé les mouvements.
Gouvernant de façon de plus en plus autoritaire, Mokhtar Ouldada est réélu sans opposition en 1966, en 1971 et en 1976. Il faut reconnaître que sous son règne, l'économie du pays progresse peu. Les sécheresses, particulièrement entre 1971 et 1974, ainsi que des baisses du prix international du fer, accentuent les difficultés qui atteignent un nouveau sommet à partir de 1975. 1976. Dans le cadre des accords de Madrid avec l'Espagne et le Maroc, la Mauritanie annexe le Rio de Oro, une partie du Sahara espagnol, tandis que le Maroc se voit attribuer le reste du territoire. Mais un mouvement nationaliste saharien, le Front Polisario, composé de Sahraouis, d'anciens membres de l'armée de libération marocaine et d'opposants mauritaniens soutenus par l'Algérie, entame une guérilla meurtrière contre le Maroc et la Mauritanie. Mokhtar Ouldada estime que cette zone fait partie intégrante de la Mauritanie. Voici la réponse qu'il nous a donnée lorsque nous lui avons demandé les motivations réelles de cette annexion subite.
Le Sahara était partie intégrante de la Mauritanie que avant la colonisation française et espagnole, c'était les mêmes territoires, les mêmes tribus, les mêmes traditions, les mêmes terrains de parcours des nomades. Et à la fin du XIXe siècle, quand l'Europe, particulièrement la France, a colonisé l'Afrique, l'Espagne et la France se sont partagés dans la Mauritanie d'alors. Et la preuve en est que les accords qu'ont eu ces puissances avec les chefferies traditionnelles de la Mauritanie étaient les mêmes émirs assignés avec les Espagnols pour leur laisser la partie qui est devenue le Sahara espagnol, et la partie française a pris pour sa part la Mauritanie.
Est-ce que la Mauritanie avait les moyens d'annexer le Sahara occidental?
Non, elle n'avait pas les moyens d'annexer le Sahara occidental, mais elle avait quand même les moyens diplomatiques et elle a négocié avec l'Espagne. Et puis, depuis que le Maroc a reconnu notre indépendance.
Pour bien comprendre les raisons de cette guerre du Sahara occidental, il faut un réel rappel historique. Les premières incursions espagnoles au Sahara occidental, après avoir été chassées par les Saadiens en 1524, remontent à 1881, lorsque la Sociedad Pesquera Canario Africanas construit un débarcadère sur la pointe d'Unford, à l'emplacement de Hula Cisneros. En 1884, l'Espagne colonise le Sahara occidental malgré une résistance de quelques tribus sahraouis, aidées matériellement par le sultan Hassan Ier du Maroc. Mais en réalité, c'est seulement le Rio de Oro qui est colonisé. Ce n'est qu'en 1887 que la totalité du Sahara occidental va l'être. Le domaine espagnol se composait de deux régions actuelles du Maroc, géographiquement distinctes. Les régions du Rif et Yebala au nord du Maroc, et Tarfaya, en bordure du Sahara espagnol, s'étendant au sud jusqu'à la Mauritanie, et avec le fleuve Drac comme frontière au nord. 8 mois avant la conférence de Berlin, la France établit son protectorat sur la plus grande partie de l'actuel Maroc, concédant à l'Espagne davantage une zone d'influence qu'un réel protectorat. Le 2 mars 1956, la France reconnaît la fin du protectorat instauré sur le sultanat du Maroc en 1912. Le pays devient donc indépendant et le souverain convertit son titre de sultan en celui de roi sous le nom de Mohamed V. Le 7 mars 1956, il annonce à son peuple le retour à l'indépendance. L'Espagne, à son tour, reconnaît l'indépendance du pays le 7 avril 1956, avant de lui restituer un peu plus tard l'enclave d'Ifni et le littoral méditerranéen, à l'exception de Ceuta et Melilla. Enfin, le statut international de Tanger est aboli le 21 octobre de la même année et le grand port du Nord retourne dans le giron du royaume. Mais le roi ne renonce pas à son idée du Grand Maroc, un concept développé par le gouvernement marocain, principalement par l'Istiqlal, dans les années 1950 et 60. Ce dernier a publié un document pour revendiquer des territoires qui en font partie historiquement. La Mauritanie, une partie du Sahara algérien et le Sahara occidental. Suite à la guerre des sables, le Maroc abandonne ses revendications sur une partie du Sahara algérien, puis renonce et reconnaît la Mauritanie en 1969. Sa dernière préoccupation est le Sahara occidental. Le 6 novembre 1975, le Maroc organise une marche pacifique nommée Marche Verte, qui réunit 350 000 civils marocains portant chacun un Coran et un drapeau marocain pour prendre possession du Sahara occidental. Le Coran se voulait un symbole pacifique de l'action de récupération, alors que le drapeau traduisait un signe indicateur de l'appartenance de ce territoire au Maroc. Le général Franco, de son lit de mort, a donné l'ordre de ne pas tirer sur les marcheurs. L'Espagne se voit contrainte d'abandonner le territoire et signe les accords de Madrid avec le Maroc et la Mauritanie. Cet accord a pour but de partager le Sahara occidental en octroyant 2/3 au Maroc et 1/3 à la Mauritanie. Mais les Sahraouis vont-ils laisser appliquer cet accord? Rien n'est moins sûr. L'Algérie, qui rêve également de ces territoires, va-t-elle laisser faire? Est-ce que la Mauritanie de Mokhtar Ouldada n'a pas eu les yeux plus gros que le ventre? Pourra-t-elle annexer ce territoire où il existe une farouche armée de résistance? On en parle la semaine prochaine dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale Mokhtar Ouldada. Vous pouvez évidemment réécouter cette émission sur le site de RFI à la rubrique podcast ou sur le site archivesdafrique.com ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique sur Google Play ou sur iOS. Vous avez également le loisir de réagir sur notre page Facebook, comme vous le faites régulièrement. La première sur notre antenne, avec ses 600 000 amis. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour la suite de notre série d'Archives d'Afrique spéciale, Mokhtar Ouldada. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. À très vite.
Archives d'Afrique, Alain Foucault.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Et j'ai parlé parfois d'un mot qui fait sourire, surtout puisque vous parliez tout à l'heure de désert, la Suisse africaine. Mon plus vif désir, mon plus ardent désir et celui de mes compatriotes et de mes amis politiques, c'est de faire de la Mauritanie la Suisse africaine qui servira non seulement de trait d'union entre les deux parties de l'Afrique, mais dans un avenir prochain, de trait d'union entre l'Afrique et l'Europe.
Moins d'une décennie après avoir conduit son pays à l'indépendance, proclamé dans une ville de Nouakchott encore en plein chantier afin de donner une capitale à la jeune nation qui jusque-là siégeait et était gérée à Saint-Louis au Sénégal, le timide élu de l'Adrar des années 1950 semble désormais avoir définitivement vêtu le manteau de président de la République. Nouakchott est certes toujours en chantier, mais il est parvenu à imposer son autorité aux nombreuses tribus rivales. Il s'est fait une place de choix parmi ses pairs. Son désir d'indépendance l'a même amené à quitter le franc CFA pour créer sa propre monnaie, l'Ouguiya.
J'en appelle à vous tous, chers compatriotes de tous les secteurs de la vie nationale, pour vous inviter à faire preuve d'un engagement encore plus profond pour renforcer toujours davantage notre monnaie. L'entreprise est en effet des plus glorieuses. Et l'étape assurément historique.
Autre décision tout aussi historique, la nationalisation de la Miferma, la célèbre mine de fer de Mauritanie.
Au nom du peuple mauritanien, de son parti et de son gouvernement, je vous annonce la décision que je viens de prendre de nationaliser à partir de cet instant la société des mines de fer de Mauritanie, dites-le clairement.
Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Mokhtar Ouldata. Dans cette seconde moitié de la décennie 70, Mokhtar Ouldada, qui s'est fait réélire pour la troisième fois, est conforté. Sur le plan international, sa voix porte malgré la taille économique de son pays. C'est dans ce climat que va naître ce qui va considérablement ébranler ses certitudes. 14 novembre 1975, la Mauritanie scelle un accord de partage du Sahara occidental, les accords de Madrid. Ce pacte lui cède la partie sud du territoire. Le Maroc, lui, annexe la partie nord. L'Algérie est écartée de ce partage. Monsieur Eli Ould Alla, vous étiez de la délégation qui a signé cet accord de partage du sud du Sahara espagnol. À titre personnel d'abord, étiez-vous réellement favorable à cette annexion?
Personnellement, oui. J'ai fait partie de la délégation qui était à La Haye. J'étais parmi la grande majorité de l'époque qui était favorable à cette union.
Ne pensez-vous pas que c'était une utopie compte tenu des forces et des moyens financiers en présence?
Nous n'étions peut-être pas en mesure de réaliser cela. Dans cette optique, le choix n'est peut-être pas le meilleur. Disons, on n'avait pas les moyens de cette ambition.
Pierre Messmer, ancien Premier ministre français, ancien administrateur de colonies.
À mon avis, non. Si cette idée était logique du point de vue d'un raisonnement géographique, du point de vue du raisonnement politique, c'était tout à fait différent.
Voici comment, des années après, le président Mokhtar Ouldada, déjà très fatigué, nous expliquait les raisons de cette annexion du Sahara occidental.
On a justifié ce que le Sahara était partie intégrante de la Mauritanie, qu'avant la colonisation française et espagnole, c'était les mêmes territoires, les mêmes tribus, les mêmes traditions, les mêmes terrains de parcours des nomades. Et à la fin du XIXe siècle, quand l'Europe, et particulièrement la France, a colonisé l'Afrique, l'Espagne et la France se sont partagés dans la Mauritanie.
En tout cas, l'Algérie, qui a été écartée du partage, ne peut admettre cette annexion du Sahara occidental. Surtout que l'enjeu économique qu'il représente pour elle est énorme. Elle déclare alors la guerre à la Mauritanie et commence même à y mener des opérations commando. Elle opère par raid dans les villages mauritaniens, mais également par des actions terroristes particulièrement violentes.
Nous sommes victimes d'une agression caractérisée de la part de l'Algérie, qui, au lieu de nous agresser par ses forces armées régulières, nous agresse par l'intermédiaire de mercenaires qu'elle recrute, qu'elle forme, qu'elle arme et qu'elle organise en expédition contre nous à partir de son territoire national. Et ces mercenaires, une fois qu'ils opèrent dans notre pays, reviennent dans leurs repères en Algérie.
Désormais, la Mauritanie, en même temps que le Maroc, doit lutter contre une guérilla plutôt bien organisée et particulièrement déterminée. Dès 1973, lors de la création du Polisario, la Libye offre des armes légères qui serviront à attaquer les premières garnisons espagnoles. C'est en 1975 que l'Algérie commence à armer le front Polisario et également en 1976 que cet apport devient massif. L'Algérie offre également des canons de 122 mm, tout le carburant nécessaire et la base arrière de Tindouf, tandis que la Libye livre des transporteurs de troupes, des missiles et des roquettes. La tactique du Polisario est très simple. Elle compte sur sa mobilité et sa connaissance du terrain également appelé Redzou. Elle consiste à attaquer, grâce à des colonnes rapides, des postes militaires, des villes, et se replier rapidement vers Tindouf en cas de danger.
Il était 9h10 ce matin lorsque l'ambassadeur de Mauritanie monte dans sa voiture pour aller à l'Assemblée nationale où, selon son entourage, il avait un rendez-vous. Des coups de feu, le diplomate est touché à la tête. Le chauffeur de l'ambassadeur n'a pas perdu son sang-froid. Immédiatement, il a conduit Ahmed Ganahallah à l'hôpital américain où se trouve à l'heure actuelle Bertrand Vanier.
André Lema, vous l'avez dit, l'attentat a eu lieu à 9h10 ce matin et tout s'est passé très très vite. Un témoin m'a raconté la scène, il se trouvait à moins de 10 mètres du lieu de l'attentat.
J'ai entendu des coups de feu, je me suis retourné et puis j'ai vu deux types partir à toute vitesse, à pied. Hein, et ils semblaient, enfin ils ont tiré sur une voiture qui était ici, qui allait sortir de l'impasse. Les types des jeunes, il y en avait un qui avait le bouc, un barbu. Ils avaient l'air, enfin, assez jeunes, 25, 30 ans. C'était des Blancs, hein. C'était des Européens.
Je voudrais vous faire écouter dans un instant une interview que Yves Loazo a réalisée au dernier sommet de l'OUA.
Le colonel Boumediene, qui avait fait le déplacement spécialement, a été effectivement assez déçu des résultats de ce sommet. D'ailleurs, vous allez l'entendre.
Malgré l'existence des problèmes, qui sont nombreux, qui sont variés, et la plus, je crois, elle n'a pas ce seul privilège. Tous les continents ont le problème. Malgré l'existence de ces problèmes, les Africains se sont rencontrés, ont débattu ces problèmes. Et c'est une façon de faire avancer les choses.
L'important, c'est de participer. C'est peu lorsqu'on se déplace et lorsqu'on est chef d'État.
Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, Yves Loazo, c'est qu'également, vous avez rencontré, il y a peu de temps, le président Mokhtar Ouldada de Mauritanie.
Oui, le lendemain même de l'agression du Polisario sur Nouakchott, on avait réveillé le président mauritanien dans la nuit pour lui faire part des coups de feu qui étaient échangés dans la capitale mauritanienne.
Ce raid a été organisé par les autorités algériennes pour perturber le sommet de l'OIA. Et c'est pourquoi nous n'avons pas voulu tomber dans leur panneau, je n'ai pas voulu faire la moindre déclaration autour de ce problème pour ne pas assombrir cette atmosphère de compréhension et de fraternité qui s'est dégagée des travaux du sommet de Libreville. Je n'ai pas fait mention de cette nouvelle agression de mercenaires algériens contre notre territoire national.
Est-ce que vous avez rencontré le président Boumediene?
Absolument pas. J'ai rencontré beaucoup d'autres chefs d'État, mais je n'ai pas rencontré le président Boumediene.
Est-ce que vous avez rencontré d'autres chefs d'État qui pourraient éventuellement servir de médiateur entre l'Algérie et la Mauritanie dans cette affaire?
Je vous dirais très franchement qu'il n'a jamais été question de médiation.
Lorsque nous avons rencontré le président Mokhtar Ouldada, nous lui avons fait écouter ses archives et lui avons demandé comment il pouvait être surpris par la réaction de l'Algérie.
La nature des rapports entre l'Algérie et le Maroc, qui n'était pas toujours cordiale, a fait que l'Algérie se trouvait impliquée dans la question. Et cela s'explique par son voisinage et ses relations avec le Maroc et avec la Mauritanie.
Malgré les agressions de l'Algérie, le président mauritanien ne se retire pas du sud du Sahara occidental. Il sollicite et obtient l'aide de la France qui lui envoie des instructeurs et des armes pour défendre l'intégrité de son territoire. Devant les propositions de médiation que lui proposent les autres chefs d'État pour trouver une solution à ce conflit, pour sortir de cette impasse, le président Ouldada reste sourd.
Notre pays considère, et c'est la vérité, qu'il a été agressé par un pays frère et voisin, en l'occurrence l'Algérie.
Cette guerre prend des allures de gouffre financier. Les militaires et les civils ne sont plus unanimes sur les raisons de cet affrontement. Les opposants et certains collaborateurs du président Mokhtar Ouldada rejoignent le front Polisario. L'Algérie, plus riche, continue d'armer les rebelles du Sahara occidental. Bref, le président Mokhtar Ouldada se retrouve empêtré dans une guerre qu'il n'a pas vraiment souhaitée. Bien que l'aide militaire de la France lui soit acquise, le moral des troupes est au plus bas. Le pouvoir du premier président de Mauritanie semble montrer des signes de faiblesse. Au sein même de l'armée, on commence à s'interroger sur le bien fondé de cette guerre si coûteuse. Mardi 18 juillet 1978, on a entendu des bruits de bottes dans la nuit. Les habitants de la capitale Nouakchott sont tirés de leur sommeil par ce message radiodiffusé.
Mauritaniennes, Mauritaniens, peuple des héros, l'heure en dernier recours de la légitimité nationale, consciente de leurs responsabilités, ont pris le pouvoir. La Constitution, le gouvernement, le Parlement, le parti et tous les organismes de celui-ci sont dissous.
Dans la nuit, le président Mokhtar Ouldada a été renversé par les militaires avec à leur tête un certain colonel Ould Mohamed Salek. Il a été arrêté et conduit dans la prison de Walatan, dans l'extrême sud-est du pays. Sur le déroulement du putsch, beaucoup de versions vont circuler. C'est pourquoi nous avons posé la question au président Mokhtar Ouldada de savoir ce qui s'était vraiment passé cette nuit-là. Comment il a été renversé?
Il était informé qu'un mouvement se préparait et j'étais en mesure de le combattre.
Pourquoi vous ne l'avez pas fait?
Parce que j'ai voulu éviter à un autre jeune armé une déchirure grave. Si j'avais voulu arrêter les principaux meneurs, l'armée aura été décapitée et on n'aurait pas pu continuer son combat.
Vous avez dans ce cas préféré qu'on vous décapite, vous?
Oui, j'ai préféré en tout cas risquer de perdre ma place plutôt que de provoquer une guerre civile. Certains des dirigeants de l'armée de l'époque étaient mécontents de ma rigueur au point de vue gestion. Je leur ai dit que je n'accepterai pas que les moyens mis à leur disposition pour faire la guerre soient détournés de leur destination et mangés par ceux auxquels ils n'étaient pas destinés. Et ils ont décidé de faire le putsch.
Comment ça s'est passé exactement?
Ils sont venus me chercher à 5 heures du matin. Ils ne m'ont pas du tout brutalisé, ça je dois à la vérité de dire que durant mon arrestation, parce que j'étais déporté dans le fond du Sahara, je n'ai jamais à me plaindre du traitement.
24 heures après le coup d'État, entre les officiers qui l'ont perpétré, le torchon brûle. Mais Mokhtar Ouldada ne reviendra pas de suite. Il est incarcéré dans l'est du pays, dans un vieux fort qui servait de prison aux combattants du Front Polisario. Mohameden Oul Mahmoud Brahim, l'oncle de Mokhtar Ouldada.
Le fort est fétiste. C'est une vieille construction de l'époque coloniale. Abandonné plusieurs fois. Ou quelquefois ne vivaient que des taupes, des hérissons, des gerboises, des... Il n'y a pas d'autre chose. Il a trouvé avec 40 ou 41 degrés de fièvre. Il était franchement très affaibli. Il était... Et cette faiblesse, cette maladie, ça a été encore renforcée par le fait qu'il ne recevait plus de nous. Depuis certains temps, son courrier.
Le 4 octobre 1979, soit un peu plus d'un an après son renversement, à la tombée de la nuit, un mystère vint du GLAM, le groupe de liaison interministériel français, quitte discrètement l'aéroport de Nouadhibou, une localité située à environ 400 km au nord de Nouakchott. Un seul homme s'est installé à bord de cet aéronef, le président Mokhtar Ouldada. Cette libération est le fruit de nombreuses tractations. Le président raconte les dessous de cette libération, qu'il a obtenue et la contrepartie.
J'ai été parti en France évacuer sanitaire. Mais il y a un arrangement parce que tous mes collègues chefs d'État africains et certains des Arabes sont intervenus auprès du président français Giscard d'Estaing pour obtenir mon évacuation qui devait se traduire par une libération.
Mokhtar Ouldadeh s'installe alors en exil à Nice dans le sud de la France. En novembre 1980, une cour spéciale est néanmoins créée dans son pays pour le juger en son absence.
L'ex-président mauritanien Maître Mokhtar Ouldadeh, qui vit en exil à l'étranger, vient d'être condamné par contumace aux travaux forcés à perpétuité. La cour spéciale de justice mauritanienne a également condamné à mort, cette fois par contumace, l'ex-lieutenant-colonel Mohamed Ouldadeh Abdelkader, ancien ministre de l'Enseignement. De Nouakchott, une correspondance de Yadli Hassan.
Deux chefs d'accusation sont retenus contre lui. Deux chefs d'accusation de haute trahison, violation de la Constitution et atteinte aux intérêts économiques du pays. Violation de la Constitution, entendez par là la guerre du Sahara, déclenchée en décembre 1975, une guerre considérée par la Constitution de 1961 comme anticonstitutionnelle. Cette Constitution dit dans quelques-uns de ses articles que la souveraineté territoriale est exercée par le peuple à travers ses représentants légitimes et toute modification de frontières, cession, échange ou connexion doit se faire par référendum populaire. Or, la Cour estime que rien de tout cela n'a été respecté. Ici, Yadali Hassan, à Nouakchott.
Le silence du président Mokhtar Ouldadeh intrigue les autorités de Nouakchott qui, en le condamnant, espèrent lui fermer les portes du pays. Il faut dire que les errements du régime qui l'ont remplacé font planer l'ombre de l'ancien président sur le paysage politique national. Les autorités redoutent le retour de l'ancien homme fort. Mais en a-t-il encore les moyens? Est-il vraiment souhaité dans le pays? On en parle dans la suite et la fin de cette série d'archives d'Afrique spéciale Mokhtar Ouldadeh. On se retrouve donc juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. À très vite.
Archives d'Afrique, Alain Focat.
Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Britannienne, Mauritanien, peuple des héros. L'heure en dernier recours de la légitimité nationale, consciente de leurs responsabilités, ont pris le pouvoir. La Constitution, le gouvernement, le Parlement, le parti et tous les organismes de celui-ci sont dissous.
Après 18 ans de règne, le premier président de la République islamique de Mauritanie a été renversé par l'armée. Son projet d'annexion de la partie sud du Sahara occidental a finalement eu raison de son régime. Il a été fait prisonnier et enfermé dans les confins du Sahara occidental. Suite et fin de notre série d'archives d'Afrique spéciale Mokhtar Ouldadeh. Le 4 octobre 1979, soit un peu plus d'un an après son renversement à la tombée de la nuit, un mystère vint du GLAM, le groupe de liaison interministériel français, quitte discrètement l'aéroport de Nouadhib, une localité située à environ 400 km au nord de Nouakchott. Un seul homme s'est installé à bord de cet aéronef, le président Mokhtar Ouldadeh. Cette libération est le fruit de nombreuses tractations. Le président raconte les dessous de cette libération, qu'il a obtenu et la contrepartie.
J'ai été parti en France évacué sanitaire. Mais il y a eu un arrangement parce que tous mes collègues chefs d'État africains et certains des Arabes sont intervenus auprès du président français Giscard d'Estaing pour obtenir mon évacuation qui devait se traduire par une libération.
Mokhtar Ouldada s'installe alors en exil à Nice, dans le sud de la France. En novembre 1980, une cour spéciale est néanmoins créée dans son pays pour le juger en son absence.
Deux chefs d'accusation sont détenus contre lui. Deux chefs d'accusation de haute trahison, violation de la Constitution et atteinte aux intérêts économiques du pays. Violation de la Constitution, entendez par là la guerre du Sahara, déclenchée en décembre 1975, une guerre considérée par la Constitution de 1961 comme anticonstitutionnelle.
Le silence du président Mokhtar Ouldada intrigue les autorités de Nouakchott qui, en le condamnant, espèrent lui fermer les portes du pays. Il faut dire que les errements des régimes qui l'ont remplacé font planer l'ombre de l'ancien président sur le paysage politique national. Les autorités redoutent le retour de l'ancien homme fort. Installé dans son exil français, le président Mokhtar Ouldada décide de garder le silence, de ne plus parler de tout cela. Il parvient à ne même plus exister dans la presse. Pendant 17 ans, c'est le trou noir. Pas une interview, pas une photo, pas une déclaration à un média. Son silence est tel qu'il ne s'exprime pas sur les coups d'État successifs qui vont avoir lieu dans son pays. Au changement de régime à Nouakchott, Mokhtar Ouldada ne réagit pas non plus. Un silence assourdissant qui se poursuit avec un autre événement beaucoup plus grave. L'expulsion, en 1989, de 60 000 Mauritaniens noirs que le régime de Nouakchott chasse vers le Sénégal. Le silence de Mokhtar Ouldada face à cette tragédie qui touche une partie importante de son peuple et qui écorne et met au grand jour la supercherie, la vacuité du slogan sur l'unité nationale dont il était l'initiateur, fait penser qu'il ne parlera plus jamais. Pourtant, au moment où l'on s'y attend le moins, l'ancien chef de l'État mauritanien décide de sortir de son mutisme en ce mois de mars 1995.
Aujourd'hui, la décomposition des institutions étatiques, l'aggravation des conflits ethniques, notamment depuis les tragiques événements de 1989, la gravité de la situation sociale et l'extrême tension qui règne sur tout l'ensemble de nos frontières me font craindre le pire. Je lance un appel solennel à toutes les Mauritaniennes et à tous les Mauritaniens, quels qu'ils soient et où qu'ils se trouvent, en particulier à la jeunesse mauritanienne, pour qu'ils œuvrent de toute leur foi et de toute leur force, afin que notre peuple retrouve son unité dans la diversité, sa dignité, sa liberté et sa place dans la région, en Afrique noire, dans le monde arabe et dans le monde.
Cette sortie spectaculaire va susciter de nombreuses réactions dans son pays, où tous y voient une volonté de revenir. Le président Mokhtar Ouldada ne le fera pourtant pas, du moins sur le moment. Il nous expliquait ainsi les raisons de cette sortie médiatique après 17 ans de silence.
Parce que je craignais que la situation dans mon pays se détériore à jamais et que le pays jouait sa carte d'existence. J'avais toujours espéré que ceux qui sont à la tête du pays allaient faire mieux que moi. Je voyais à partir de cette date que l'existence même de mon pays était en danger. Et comme l'intérêt de ce pays et de son peuple ont été mon horizon d'existence pendant une bonne partie de ma vie, j'ai mis en garde les responsables.
En tout cas, cette décision de sortir de son mutisme est interprétée par les différents courants de Nouakchott comme une volonté affichée de revenir sur la scène politique mauritanienne. L'accueil est plutôt tiède. Il faut dire que Mokhtar Ouldada est parti depuis plus d'une décennie. Entre-temps, les nouveaux hommes politiques ont fait leur entrée sur la scène nationale et les réalités ont connu quelques changements notables. Cette incursion dans le jeu est regardée avec une certaine méfiance. Et pendant longtemps, va se reprendre une rumeur persistante sur son retour. Voici comment réagissait le président, qui avait pourtant déjà plus de 77 ans, à la question de savoir s'il envisageait de revenir au pays. Et pourquoi faire ?
Retourner en Mauritanie, c'est une perspective que j'envisage. Mais je n'ai pas encore fixé de date ni de modalités pratiques, mais me retrouver parmi mes compatriotes sur la terre de mes ancêtres est une perspective qui m'intéresse.
Cette idée, il va la concrétiser peu de temps après. Mariam Ouldada.
À partir des années 98, sa santé a commencé à décliner doucement. Je me souviens que 98, oui, nous avons fait une petite réception avec des amis. Bon, il était déjà, sa forme avait un peu diminué. Et petit à petit, au fil du temps, jusqu'en 2003, sa santé, tout doucement, a décliné.
En juillet 2001, le président Mokhtar Ouldada monte dans un avion pour retourner dans son pays. Il est accompagné de sa femme. Ses enfants sont également du voyage.
Mauritanie, il s'agissait du retour, le retour de Mokhtar Ouldada après quelques 23 ans d'exil. L'ancien président renversé en 1978 est donc rentré à Nouakchott. Pas de tapis rouge pour lui, ni même de représentant officiel pour l'accueillir à l'aéroport. Mais en revanche, une foule massée l'attendait.
Notre retour en 2001 s'est fait dans le contexte que je viens de décrire, c'est-à-dire une santé déjà fragile. Je le revois encore descendre de l'avion, d'être assisté, l'aider un peu. Il marche, mais il faut l'assister, il faut l'aider.
Mariam Ouldada, l'épouse de l'ancien président.
Nous étions dans l'avion et l'aéroport était désert. C'est quand même pour un homme comme Mokhtar qui a créé ce pays, qui s'est sacrifié pendant 20 ans pour lui, sans en tirer rien d'autre que la satisfaction. Cela m'a frappé, m'a choqué. Nous quittons l'aéroport, mais la surprise, c'est là que la surprise nous attend, parce que toute la ville de Nouakchott est là, dans les rues. On ne peut pas avancer, mes enfants sont témoins, et d'autres, bien d'autres. Et fait surprenant, et émouvant, et rassurant, les visages qui nous entouraient, qui criaient à nos côtés, étaient des jeunes garçons, et des jeunes filles aussi, des jeunes gens. Donc, l'hommage qui a été rendu au président à ce moment-là, au moment de notre retour, était un hommage populaire, spontané et porteur d'avenir, parce que c'est les jeunes générations, c'est l'avenir du pays. Je suis obligé de dire, aucune autorité officielle n'était là pour nous recevoir, alors qu'on rentrait de 23 ans d'exil pour le président. C'était dommage.
Mokhtar Ouldada, qui revient au pays, est déjà très malade. Il est diminué physiquement et éprouve de réelles difficultés à s'exprimer. Mais il garde une grande lucidité.
Pourquoi nous sommes rentrés en 2001 ? C'est la volonté du président et sa seule volonté. Personnellement, j'appréhendais un peu ce retour, je dois dire, pour les raisons que vous devinez aisément, le contexte local, national, la manière dont il a été traité pendant tout son exil, l'indifférence des autorités, quelles qu'elles fussent, hein, qui se sont succédées. Donc j'étais assez... J'ai suivi. C'est lui qui décide. Hein. Donc, nous avons eu beaucoup de visites qui ont défilé ici. Aucun ancien chef d'État, sauf un. Des parents, bien sûr, des amis. Jusqu'au moment où le médecin qui s'occupait du président... Il m'a insisté auprès de moi particulièrement pour dire il faut que le président aille en France. Il faut que le président aille en France. Je vais faire une confidence publique que je n'ai jamais faite en public, mais que je vais dire maintenant. Si nous avons tardé à partir en France, alors que c'était urgent en fait, hein, c'est par manque de moyens financiers. Je précise, c'est vrai. Et c'est grâce à des étrangers que nous avons pu obtenir deux billets vers France à l'époque, en première classe, et partir avec le président un peu d'urgence, enfin un peu dans la panique.
Il ne participera quasiment plus à la vie politique nationale. Il décide néanmoins d'écrire ses mémoires, « La Mauritanie contre vents et marées », dont il me fera l'honneur de me proposer de lire le manuscrit avant sa publication. Mariam Ouldada, son épouse.
Nous étions dans un appartement particulier d'amis de mes enfants. Voilà, tout subitement, ses yeux se sont révulsés. J'ai donc appelé tout de suite les pompiers, je dois dire, c'est eux qui nous ont... Le SAMU, exactement, mais les deux, mais enfin le SAMU est venu tout de suite. Et nous avons été à l'hôpital du Val-de-Grâce où il est resté effectivement 2 mois dans le coma. Et nous allions le voir évidemment tous les jours, pratiquement tous les jours. Et mes enfants et moi, à tour de rôle, en fonction de leur présence, les amis aussi, les passages, etc. Tout le monde était assez affolé de cette situation. Et un jour, le chef d'État de l'époque, et chacun verra de qui il s'agit, a demandé d'aller le voir. Je me suis absolument abstenue d'être présente. Je pense que ça n'était... Je ne voulais pas être présente à ce moment-là, parce que je trouvais que c'était trop tard. Il était en train de mourir, et bon. Certains de mes enfants ont voulu assister, pas une absence totale, c'était leur choix. Ils étaient adultes, et ils ont décidé cela, c'est parfait. Mais moi, en tout cas, je ne suis pas allé. Le président n'est pas sorti de son coma. Et un soir, j'étais avec un de nos parents de la famille maternelle du président. Nous sommes venus le visiter, comme de coutume. Et nous avons vu qu'il n'était plus à la place habituelle, dans la chambre habituelle. Nous nous sommes informés, on nous a dit qu'il est dans une autre chambre, à quelques pas. Nous sommes allés. Le président était là, avec moins armé d'appareils respiratoires, bon, plus. Ce qui, moi, m'a ravi. Je me suis dit, c'est très bien, c'est bon signe, etc. Et dans la même nuit qui a suivi, on nous a dit, sur une formule, comment la qualifier, brutale, je dirais, Monsieur Ouldada, c'est le médecin qui est au bout du fil, Monsieur Ouldada est décédé. Et il a raccroché.
La mort du premier président de Mauritanie, Mokhtar Ouldada, s'est éteint hier soir à Paris. Il avait 79 ans, 3 jours de deuil dans le pays. Drapeaux en berne, extrait du Coran à la radio et à la télévision.
Il est décédé dans la nuit du 15 au 16 octobre, à 1h du matin. C'est-à-dire à un moment où c'est 11h du soir à Nouakchott et c'est 1h du matin à Paris. Le retour de son corps... En 2003, puisqu'il avait exprimé, vous vous en doutez, il l'a d'ailleurs fait par écrit, le souhait d'être enseveli, quelle que soit la date de sa mort, qui n'appartient qu'à Dieu, bien sûr, en terre islamique. Quand il était en exil, il ne savait pas s'il serait en Mauritanie, mais à défaut de la Mauritanie, et ça j'ai son testament dans les archives familiales, il voulait être enseveli en terre islamique. Heureusement, il était en terre mauritanienne, il a pu rentrer en terre mauritanienne et c'est là que le gouvernement mauritanien de l'époque a affrété un avion sans que j'aie à le demander. J'ai simplement demandé qu'un grand drapeau national, il est aujourd'hui à la Fondation, recouvre son cercueil. Et nous sommes arrivés donc à Nouakchott pour ramener le président et l'ensevelir. Ce qu'il avait souhaité à bout de limite, ce qui a été fait.
À la question de savoir quel bilan il dressait de son passage à la tête de l'État mauritanien, voici sa réponse.
Sans fausse modestie, je dirais que j'étais satisfait de ce qui a été fait. La Mauritanie, quand ils sont autonomie interne, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle n'était qu'une circonscription administrative du Sénégal. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de capitale, il n'y avait pas de gouvernement, il n'y avait pas de services. Les services centraux étaient assurés par le Sénégal. En 18 ans, la Mauritanie est devenue un pays crédible. Je crois que c'est délicat de dire... de parler de soi, mais ce qui a été fait est énorme parce que il m'est arrivé quand j'étais au pouvoir de me dire à moi-même, tu n'as rien fait, tout reste à faire. Mais quand je compare le moment où j'ai été à la tête du pays et au moment de l'équité, je trouve que l'œuvre a été considérable.
Monsieur Amadou Abdallah, vous qui avez été l'un de ses proches collaborateurs, qui avez été son ministre, avec le recul, quel bilan dressez-vous de son passage à la tête de l'État mauritanien?
Je crois qu'il a certainement fait un effort avec la conviction que c'était dans le bien du pays, mais je crois que sur le plan économique, c'était très discutable. Sur le plan de gestion de l'administration publique, le service public, la notion de l'État, c'était également discutable.
Bien que boudé au départ par ses successeurs, Mokhtar Ouldada va progressivement être réhabilité par les autorités qui vont se succéder à la tête de l'État. Mariam Ouldada, sa veuve.
En 2008, le président, ça je vais citer son nom, Mohamedoul Abdelaziz, m'a fait contacter par son protocole et a dit qu'il voulait me voir. J'ai accepté d'aller le voir, je suis rendu à son rendez-vous. Et il m'a dit ce que vous venez de dire, c'est-à-dire, je souhaite baptiser avec vous la plus grande avenue de Nouakchott du nom du président Mokhtar. J'avoue que les bras m'en sont tombés, il n'y a pas une autre expression. J'étais à la fois surprise et quand même heureuse, parce que c'est la première fois, et vous n'avez qu'à compter, 2008-78. Donc je l'ai remercié, je lui ai dit bien sûr, tout ça a été fait, une plaque a été découverte par lui, il était à gauche, moi j'étais à droite de la plaque, on a fait une manifestation. Deuxième étape, en 2010 cette fois, à ma demande insistante, je dois dire, la reconnaissance d'utilité publique de la Fondation Mokhtar Ouldada.
C'est par cette reconnaissance tardive, c'est vrai, que se termine notre série d'archives d'Afrique consacrée au premier président de la Mauritanie, Mokhtar Ouldada. Ses mémoires ont été publiées aux éditions Cartala, « La Mauritanie contre vents et marées », c'est le titre. La Mauritanie dont on célèbre cette année le 60e anniversaire de l'indépendance, mais où persiste encore, malheureusement, l'esclavage des Noirs. Vous pouvez bien sûr écouter cette série d'émissions sur le site de RFI à la rubrique podcast ou encore sur le site archivesdafrique.com ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique sur iOS ou sur Google Play. Vous pouvez également réagir comme vous le faites régulièrement sur notre page Facebook, la première sur notre antenne. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons rendez-vous quant à nous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour aller à la découverte d'un autre personnage marquant de l'histoire contemporaine de l'Afrique. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.